RMC After Paris.
François Pinet.
Le podcast After Paris, dernier épisode de la saison. Merci à vous de nous écouter en podcast sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur After Foot TV. Vous avez été très nombreux à nous écouter et à nous regarder avant cette finale de Ligue des Champions. On vous en remercie énormément. Pour aujourd'hui, bien évidemment, on va se projeter sur la saison prochaine avec un épisode spécial Mercato qui doit rester, qui doit partir. Peut-être des infos sur ceux qui doivent venir. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire sur YouTube. Pour nous aider dans cet épisode, on est avec Bruno Satin, agent de joueur. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On te retrouve régulièrement dans l'After pour parler justement Mercato. Il vient régulièrement nous voir lui aussi dans After Paris. C'est Clément Pernia de Paris United qui est là. Salut Clément.
Salut François, salut à tous.
Clément qui a donc deux étoiles désormais et qui a un deuxième livre déjà en vente.
Back to back.
Back to back, ça s'appelle.
Le livre officiel du PSG.
Voilà.
Sort le 10 juin, donc qui revient évidemment sur l'épopée 2025-2026 du PSG.
Voilà, aux éditions Amphora. Pour Clément Pernia, on verra la couverture dans quelques instants. Jimmy Brown est là, salut Jimmy.
Bonjour François, bonjour à tous les doubles champions d'Europe.
Avec un magnifique t-shirt pour ceux qui ne nous regardent pas, on voit Dembélé et Désiré Doué avec la coupe aux grandes oreilles.
Voilà, c'est un vestige de Munich, mais on va s'en acheter un deuxième là avec Joao Neves qui soulève la coupe, je pense.
Alors, comme c'est le dernier After Paris de la saison, on termine quand même en apothéose. On a porté chance au PSG, peut-être. Comment tu l'as vécu, toi, cette finale Budapest?
C'était évidemment, moi j'étais à Munich, donc là j'ai pas pu aller à Budapest cette année, donc les émotions sont très différentes forcément. On l'avait dit avant que ce serait une finale complètement différente de celle de l'année dernière. Je pense qu'on s'est pas trompé, que c'est un match très fermé, que c'était une espèce de souffrance et une délivrance à hauteur de la souffrance, je pense. Quand Gabriel rate le dernier tir au but, tu te dis que voilà, ça y est, tu l'as fait, t'es allé chercher la deuxième. Et je pense que sur le match et sur l'ensemble de la saison, c'est amplement mérité pour le PSG.
Clément, toi t'y étais, à Budapest.
Moi c'est l'inverse, j'étais pas à Munich, j'étais à Budapest et ça a été assez insoutenable comme match, pour ne rien vous cacher. C'était le scénario cata qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire Arsenal qui marque d'entrée, qui verrouille, et le PSG qui galère à égaliser. Donc ça a été très très dur jusqu'à l'égalisation, et après ça a été beaucoup plus plaisant parce que l'ambiance est repartie de plus belle, parce que le PSG a repris l'ascendant. Et avec cette fin qui est absolument exceptionnelle. C'est le pire moment de stress, mais c'est une apothéose magnifique.
Alors forcément, on se projette, nous, maintenant.
Attends, parce qu'il y a Bruno qui peut nous régler. Il a vécu les deux, lui, je crois.
J'ai vécu les deux, oui, j'ai eu cette chance. Ouais, effectivement. Bruno. Mais bon, naturellement, c'était totalement différent. L'année dernière, en un quart d'heure, 20 minutes, c'était plié. Donc cette année, c'était l'inverse. C'était la tension extrême. Et puis à la fin, bon, les joueurs du PSG qui tombaient un peu comme des mouches parce que il y avait la fatigue, il y avait les crampes. Et donc on se dit, bon, le banc, il n'était pas d'une richesse exceptionnelle non plus, sans faire offense à ceux qui sont rentrés, quoi.
Bah justement, on va parler de tout ça et de la profondeur de banc aussi du Paris Saint-Germain, parce que c'était un des thèmes réguliers dans After Paris. Et si vous nous écoutez, vous savez que Jimmy, depuis le début de la saison, il disait on n'a pas assez recruté.
Mais il s'est bien trompé.
Malgré tout.
Il s'est bien trompé. Il le dit face caméra, il s'est bien
voilà.
trompé.
C'est comment on peut comprendre que même avec ce recrutement peu consistant, comme tu le disais, Zabarni et Chevalier,
d'une part peu consistant et d'autre part, factuellement raté, puisque ni Zabarni ni Chevalier n'ont eu l'apport escompté en début de saison, au moment où on les recrute. Ouais. Chevalier, il vient pour être numéro 1. Zabarni, on attendait mieux d'un défenseur qui a été quand même recruté pour 60 millions d'euros. Mais malgré ça, et je pense que c'est tout le crédit en revient à Luis Enrique et à son staff. Un staff d'élite, encore une fois, je le disais il y a quelques jours dans l'After, je pense qu'on ne souligne pas assez l'apport de tous les membres du staff, qui sont tous des universitaires, qui sont tous des pointures de la préparation physique, de la préparation mentale, à tous les niveaux. Ils ont réussi à faire cette montée en puissance qui les a amenés à être le plus performant et au moment le plus important. C'est quand même un symbole assez extraordinaire de voir que les 10 joueurs de champ, tu les retrouves pour la première fois titulaires, les 10 joueurs de champ de Munich, tu les retrouves pour la première fois de la saison titulaires à Budapest. C'est-à-dire que même si tu te dans un film, tu ne peux pas l'écrire comme ça, l'histoire. Ils l'ont fait.
Est-ce que, malgré tout, ce back-to-back-to-back, puisque certains joueurs en ont parlé aussi, et ça sera sans doute l'objectif, on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine saison d'After Paris, passe par un recrutement cet été. Est-ce qu'il faut quand même régénérer le groupe? On en a beaucoup parlé cette année, on a vu que ça avait fonctionné, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de nouveaux joueurs. Clément, est-ce que pour toi, il faut quand même maintenant essayer à certains postes peut-être de recruter, de trouver d'autres joueurs. Ouais, on parlera ensuite des départs possibles.
Déjà, je confesse m'être également trompé puisqu'on était quasiment tous unanimes pour dire qu'il fallait davantage recruter cette saison. Comme l'a dit Jimmy, ça a payé 100, donc il faut aussi admettre quand on se trompe. Moi, j'ai envie de dire, logiquement, il faudrait faire comme cette année. Il faudrait ajuster, il faudrait renforcer légèrement, il faudrait peut-être doubler certains postes. Mais je ne vois pas pourquoi ce qui a marché cette année ne marcherait pas l'année prochaine. Alors, on peut dire qu'à un moment donné, ça aura ses limites, mais je ne suis pas sûr que Luis Enrique, qui aime bien fonctionner avec un groupe assez restreint de 14, 15, 16 titulaires max, soit plutôt partisan d'un renouvellement massif de l'effectif. Mmh. Honnêtement, je pense qu'ils vont y aller touche par touche et qu'ils vont tenter d'ajuster certains postes, peut-être devant. Derrière, j'y crois pas trop parce que, contrairement à Jimmy, je trouve que Zabarni, il y a peut-être un potentiel pour s'imposer ces prochains mois. Je ne suis pas sûr que ce soit cramé, contrairement à Chevalier, dont ça va être plus dur pour lui.
Ah, moi, pour les deux, je pense que c'est pas cramé. Moi, je pense que Chevalier, il peut même revenir. Voilà, Zabarni, moi, je le connais pas. Mais sur la saison, ce que je dis, c'est que sur la saison, il n'a pas apporté ce qu'on aurait pu espérer.
Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le PSG va faire les grandes manœuvres pour complètement régénérer son effectif.
Alors, les infos qu'on peut vous donner à ce moment-là, et il y aura sur RMC Sport d'autres infos grâce à Fabrice Hawkins, c'est juste que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, chercherait des éléments plutôt en défense. Alors à voir si c'est plutôt sur un latéral ou plutôt en défense centrale. Et puis en attaque, le milieu de terrain étant plutôt pourvu, mais... Évidemment, il faudra voir s'il y a des départs. Bruno, quand on est agent de joueur, le PSG en ce moment, bah, c'est pas top parce que ça bouge pas beaucoup. Non, mais c'est un club qui arrive quand même à avoir les mêmes performances et on l'a dit, deux saisons consécutives avec quasiment le même effectif. C'est, alors qu'on a l'habitude de dire quand même qu'il faut toujours un peu régénérer un effectif. Quand on a gagné, quand on a tout gagné, ça permet aussi peut-être de mettre des joueurs en concurrence. Quel est ton avis, toi, qui a vu d'autres clubs aussi fonctionner ?
Ils n'ont quasiment pas changé de joueur, mais à l'intérieur du groupe, il y a eu de la concurrence. Donc, après, il y a eu des fois une concurrence peut-être moins importante compte tenu du nombre de blessures qu'il y avait. Le peu de récupération qu'il y a eu après la Coupe du Monde des clubs l'année dernière a fait que, en permanence, puisqu'on le voit bien, PSG a récupéré l'équipe type pratiquement pour la finale. Je veux dire, Hakimi, Nuno... enfin, il y en a encore qui ont manqué.
Ruiz a beaucoup manqué de matchs.
Ruiz a beaucoup manqué de matchs. Donc, effectivement, le souci, c'est de se dire, OK, comment on fait pour que tout le monde ait un temps de jeu assez intéressant ? Mais c'est vrai que des fois, Luis Enrique, il a dû bricoler pour des équipes en championnat ou même en coupe. Il a dû faire des compositions d'équipes qui étaient assez osées, on va dire. Donc, il a un crédit énorme dans ce qui s'est passé parce qu'il arrive à convaincre l'ensemble des joueurs quand ils rentrent sur le terrain que c'est les meilleurs du monde. Après, je pense qu'il y a un élément qui va être intéressant, c'est de voir comment sont gérés certains cas de jeunes joueurs. Je pense à Seni Mayulu, je pense à Ibrahim Mbaye, qui sont annoncés potentiellement sur le départ, mais qui sont quand même des joueurs qui sont rentrés dans la rotation. Et je n'ai pas vu leur nombre de matchs, mais ils doivent être entre 20 et 25 matchs. Donc, ce sont devenus des joueurs importants. En plus, c'est des assets du club. C'est des gamins qui sont formés ici. Donc, il y a aussi un côté
symbolique. Le PSG compte sur ses titis.
C'est pas neutre, quoi. Puis même, on envoie... Enfin, je veux dire, quand il y a des jeunes du centre qui jouent, on envoie un signal au centre. On peut réussir, on peut éventuellement jouer en équipe première.
Ça peut être encore la stratégie pour la saison prochaine, effectivement, de se baser sur les jeunes joueurs qui émergent du centre de formation, sur les cadres que l'on a vus encore cette saison, et puis potentiellement sur des recrues. Mais Bruno, quand on est aujourd'hui joueur de foot, j'ai envie de te dire, le Paris Saint-Germain, c'est le club dans lequel il faut être. Je pense que ce n'est pas difficile de recruter aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. On se souvient de débats à l'époque où on disait le PSG recrute grâce uniquement au carnet de chèques. Aujourd'hui, c'est peut-être le club le plus attractif d'Europe, non, le Paris Saint-Germain ?
En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a la meilleure équipe en ce moment en Europe. Il y a probablement le meilleur ou l'un des tout meilleurs entraîneurs. Et puis, c'est la ville de Paris. Donc ça aussi, c'est attractif. Et puis ils jouent le meilleur football, quoi. Et accessoirement, ils ont la capacité à donner les meilleurs salaires. Donc ils sont en mesure de donner les meilleurs salaires en Europe, peut-être à l'exception de l'Arabie Saoudite, quoi. Donc le gars qui veut rester dans le très haut niveau, c'est clair que le PSG a les moyens de le prendre.
Et il y a une concurrence saine. Honnêtement, c'est aussi un argument quand tu vas attirer un joueur aujourd'hui. À l'époque, il y a eu encore pas si longtemps au PSG, il y avait des statues, il y avait des superstars. Aujourd'hui, on l'a vu avec Luis Enrique, on en parlera tout à l'heure, peut-être qu'on évoquera Barcola. Il y a eu toute la saison une concurrence saine où les meilleurs sont capables d'aller sur le banc s'ils sont moins bien, à l'image de Kvaratskhelia qui démarre les huitièmes de finale sur le banc. Donc aujourd'hui, quand tu arrives au PSG, on a parlé de Julian Alvarez, d'autres joueurs, etc. T'as pas la garantie d'être titulaire, mais t'as pas non plus la garantie d'être remplaçant si t'es un joueur un peu middle ou t'es censé être moins bon que les uns les autres. Si t'es bon, tu joueras. Et ça, moi, c'est important.
J'apporterai quand même une petite nuance à ce discours, c'est que, et tu le vois bien, je pense que là, les départs, les joueurs qui vont être concernés par un départ, sera probablement Barcola, Gonzalo Ramos, c'est des joueurs qui sont là depuis un moment et qui font pas. Luis Enrique, il a quand même son 11. Ce qu'il a amené sur le toit de l'Europe, c'est quand même ce 11-là. Alors, les blessures, Bruno en parlait, ont fait qu'effectivement, il y a eu pas mal de fois un turnover et que tu vas jouer tes 25-30 matchs au PSG. Là, je te rejoins, Clément, quand tu viens, tu auras du temps de jeu. Mais sur les matchs les plus importants, si les joueurs, si les joueurs titulaires sont disponibles, a priori, tu vas passer quand même derrière ces mecs-là. Donc, moi, je pense que le profil de joueurs ciblés sont des joueurs jeunes qui vont avoir la patience de se dire on a effectivement la possibilité, là, je te rejoins, encore une fois, d'aller chercher une place. C'est pas fermé, c'est pas verrouillé, mais c'est dur. Et c'est là où moi, typiquement, moi, je pensais qu'il fallait recruter, par exemple, un latéral droit. Je comprenais pas pourquoi il y avait pas de latéral droit qui avait été recruté cette saison. Et tu te rends compte qu'avec Warren Zaïre-Emery, ça a super bien marché. Et tu te dis quel profil de latéral droit je prends. Qui va venir en fait? Quel est le latéral droit confirmé qui va accepter de passer de jouer sa place contre Hakimi ou de l'autre côté de jouer sa place contre Nuno Mendes? C'est difficile en fait. Donc oui, t'es obligé de prendre un joueur jeune qui va accepter de jouer un peu le championnat, de jouer les matchs de Coupe de France, de jouer quelques matchs par-ci par-là en Ligue des Champions en fonction des absences, mais qui part pas.
Tu peux
pas
prendre un mec confirmé quoi. Quand même quand ça fonctionne, oui. Et quand t'as Luis Enrique et Luis Campos d'ailleurs main dans la main sur le choix des joueurs, ils savent bien aussi quel profil ils vont chercher. Ils vont chercher des joueurs justement qui sont capables d'accepter parfois d'être mis en concurrence et de ne pas arriver comme des vedettes. Hein.
Ouais, mais après il y a les arbitrages. Donc effectivement, comme disait Jimmy, bon l'année dernière ça paraissait en tout cas pas évident, mais en plus avec la Coupe d'Afrique pour Hakimi, le fait de devoir recruter éventuellement une doublure pour Hakimi, mais là pour l'année qui vient et le profil que tu dépeins, est-ce que au contraire c'est pas le moment de lancer Boli dans le grand bain,
par exemple,
et plutôt que d'aller recruter à l'extérieur de façon onéreuse? Donc bon, là il y a des arbitrages.
Ouais. Alors justement, on va parler, puisque vous l'avez évoqué, les cas individuels importants au Paris Saint-Germain, de ceux qui pourraient partir: Chevalier, Barcola, Gonzalo Ramos. On en parle dans la deuxième partie d'After Paris. Deuxième partie d'After Paris avec Bruno Satin, Jimmy Brown, Clément Pernia aujourd'hui pour ce dernier numéro d'After Paris de la saison. Évidemment, on se projette avant de vous retrouver pour le début de la saison prochaine. Cet été, on va surveiller de près le mercato parisien et ça va conditionner peut-être des futures arrivées. On va parler des départs possibles de joueurs, certains bon, qui ont joué quelques bouts de match et d'autres qui ont été quand même importants dans la conquête du titre de champion et de vainqueur de la Ligue des Champions. Le qui part qui reste, tiens, on va faire ça avec vous. Le PSG qui avait donc recruté, on l'a dit, Lucas Chevalier pour 40 millions. Il a joué 26 matchs et puis on a bien compris effectivement qu'il était passé deuxième dans la hiérarchie derrière Safonov, gardien international qui a perdu sa place et quand même sous contrat jusqu'en 2030. Alors Bruno, tu connais le marché des gardiens, c'est vrai que c'est un marché qui bouge moins que les autres, forcément. Quand on a le cas d'un Lucas Chevalier, est-ce que pour toi, déjà pour lui, il doit partir, il doit quitter le Paris Saint-Germain? Et est-ce que le PSG peut le remettre en selle, sinon?
Moi, personnellement, je pense encore que son potentiel est supérieur à celui de Safonov. Donc, mais ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Mais bon, je l'ai beaucoup suivi, même en jeune, lorsqu'il était à Lille. Et quand je vois jouer Safonov, je ne trouve pas qu'il ait un charisme absolument phénoménal, que ce soit le patron de la surface. Comme grand gardien au PSG, je me suis quand même occupé de Bernard Lama il y a quelques années. Et là, il y avait un patron dans la surface. Donc là, pour commander à la fois les défenseurs, sortir sur les ballons chauds, aujourd'hui, alors c'est vrai que le foot a beaucoup changé, la qualité des ballons, tout ça, mais sur tout ce qui est ballon aérien, je vois quand même Safonov souvent en difficulté. Donc en tout cas, le poste de gardien, qui est un poste absolument fondamental dans le foot moderne, on ne peut pas dire que ça soit un poste fort cette année au PSG, quoi.
Donc, et encore une fois, malgré ça, tu vas gagner avec des champions.
Bah, c'est
moi,
parce que
je rejoins
super
tout à fait l'analyse de Bruno. Je suis 100% aligné.
Toi, tu gardes Chevalier dans les
faits. Moi, je garde Chevalier. Je pense que, enfin, ils ont quand même sorti, c'est un choix fort de sortir Donnarumma après la Ligue des Champions de la saison dernière, de miser sur un choix d'avenir, de penser au moment où tu le prends que tu as le futur gardien de l'équipe de France dans ton effectif. Ça s'est pas bien passé pour plusieurs raisons cette saison. On en a beaucoup parlé avec Fabrice notamment sur son intégration, sur le côté hors terrain aussi où il a eu des difficultés Chevalier. Moi j'ai du mal à imaginer que Campos et Henrique qui étaient alignés sur ce choix se dédisent au bout d'une saison. Je pense qu'ils vont prendre le temps et je pense que c'est pas inenvisageable de le revoir démarrer titulaire la saison prochaine, par exemple.
Oui. Remettre une concurrence entre les.
Peut-être.
Ce qui a fonctionné d'ailleurs.
Je pense. Globalement d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut qu'il reste. Je pense qu'il peut encore s'imposer. La seule chose sur laquelle je suis pas d'accord, Bruno, c'est quand tu dis que ça n'a pas été un poste fort pour le PSG cette saison, gardien. In fine, à l'arrivée, si. À l'arrivée, je trouve que Safonov à Liverpool, dans les trophées quand il est présent lors des séances de tir au but. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut que le gardien soit un poste fort. Je ne dis pas qu'il a gagné sa place indéfiniment, je dis que malgré tout, il a répondu présent.
Trouvé. Là où tu as raison, c'est qu'il ne s'est pas trouvé.
Il a même été décisif. À Anfield, il est décisif deux fois. Contre le Bayern, il a moins de choses à faire. C'est paradoxal à Munich parce que le PSG a été énorme. En finale, et sur le but, il n'est pas irréprochable. Je pense qu'il n'a pas assuré sa place ad vitam aeternam, mais je pense qu'il a répondu présent. Chevalier peut s'imposer, mais ça va pas être facile de déloger Safonov, mine de rien.
Ah bah oui, qui est
puis ça partira de lui aussi. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que Chevalier va prendre le risque de rester dans une concurrence pour l'instant qui lui est défavorable?
Oui, c'est ça.
C'est un garçon qui est jeune encore, et donc sans doute qu'il aura envie de jouer. Maintenant, naturellement, le PSG, vu ce qu'ils l'ont payé et puisqu'ils doivent lui donner comme salaire, c'est pas non plus très facile.
C'est pas simple de trouver une porte de sortie pour Chevalier, d'accord. Ça c'est évident. On va parler de Bradley Barcola parce que ça, c'est vrai que c'est un des dossiers qui peut être très important cet été. Barcola, qui est sous contrat jusqu'en 2028, il y a des négociations pour une possible prolongation, qui a joué beaucoup, 49 matchs, mais qui a perdu sa place pour les matchs de fin de saison et qui n'était pas titulaire lors de la finale. Est-ce qu'un joueur comme Barcola, qui est évalué sur Transfermarkt, qui est souvent un site de référence pour ceux qui regardent, à 70 millions d'euros, donc qui est une grosse vente, qui serait une grosse vente pour le PSG.
On sera plus haut même, ouais.
Est-ce qu'il peut rester au Paris Saint-Germain, Jimmy ?
Est-ce qu'il peut rester ? Oui. Est-ce qu'il va rester ? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il fait partie de ceux, j'en parlais tout à l'heure avec Ramos, qui peut-être aspire à plus.
Parce que lui,
il a plus joué. Oui,
lui, c'est
il a plus joué.
Homme, hein.
Il a plus joué, c'est 12e homme. Mais je pense qu'à un moment donné... quand t'es Bradley Barcola à l'âge qu'il a, il se dit que
23 ans.
C'est maintenant, il faut être titulaire. En plus, il a une cote énorme. Je parle sous le contrôle de Bruno, mais en Angleterre, il y a plein de clubs qui sont intéressés par son profil. C'est un joueur qui va vite. Tu sens que s'il a un déclic face au but, ça peut devenir une machine. Il a encore quelques lacunes, mais en regardant Dembélé à son âge, Dembélé où il est aujourd'hui, moi je pense que Barcola, c'est un joueur, c'est un très très bon joueur et je pense qu'il aura la capacité à s'imposer dans n'importe quel grand club européen. Donc oui, c'est dur de se dire tu vas encore passer derrière Kvara, derrière Dembélé, derrière Doué, peut-être qu'il va avoir envie d'autre chose. Moi j'espère qu'il va rester, honnêtement, si tu me demandes mon avis. Moi j'espère qu'il reste au PSG parce que c'est le 12e homme parfait, qu'il apporte quelque chose, il a un profil différent des autres, cette capacité à prendre la profondeur que Doué a peut-être moins, il a d'autres qualités. Mais voilà, si tu veux reconstruire un peu l'effectif, comme on disait, régénérer l'effectif, tu dois t'appuyer sur des ventes et la plus grosse valeur marchande des joueurs susceptibles de partir, c'est lui.
Donc. Ouais, moi je pense que l'histoire n'est pas terminée pour Barcola au PSG. On l'a vu, il a joué 49 matchs. C'est typiquement le genre de joueur que Luis Enrique adore. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui répond globalement présent à chaque fois. Moi je trouve qu'on oublie trop vite qu'il est titulaire contre Monaco, qu'il est titulaire aller-retour contre Chelsea, il marque contre Chelsea, au retour il se blesse assez gravement à la cheville,
mais c'est ça qui fait peut-être la différence.
Il revient pas vraiment après, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est pas blessé? Pour moi il démarre contre Liverpool et pour moi il avait pris l'ascendant à ce moment-là sur Désiré Doué, et voilà, je pense que c'est pas fini. Je pense que ce que je disais tout à l'heure pour la concurrence, Dembélé, on l'a vu, globalement, il y a une moitié de saison sur deux qui ne joue pas vraiment parce qu'il est un peu blessé, fatigué, etc. On ne sait pas ce que va donner Dembélé l'année prochaine. On ne sait pas si Doué ou Kvara ne vont pas être atteints de blessures ou de choses ou de coups de mou. Je trouve que Barcola, c'est plus qu'un remplaçant, c'est vraiment un titulaire bis. Alors évidemment, et c'est vrai qu'on a le sentiment sur la fin de saison qu'il plafonne. Il plafonne devant le but, il plafonne dans certains registres. Mais pour moi, il a 23 ans, vous l'avez dit, il a une marge de progression énorme. Et je ne vois pas du tout le PSG s'en séparer. Et petite anecdote, il a quand même dit sur le plateau de Roland-Garros lundi qu'il était prêt plus que jamais pour aller chercher la troisième.
Oui.
Alors, vous allez me dire, c'est de la com, il ne peut pas dire
ça. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que lui aspire à plus. Moi, je pense que le PSG veut le garder, mais peut-être que c'est lui qui va vouloir aller voir ailleurs.
J'ai envie de demander à Bruno, qui conseille des joueurs régulièrement, qu'est-ce que tu conseillerais à Barcola? Est-ce que tu le conseillerais de de rester au PSG, quitte à ne pas être un titulaire indiscutable, comme ça a été le cas en fin de saison, ou est-ce que tu lui conseilles de partir, même s'il va dans un club un peu moins grand que le Paris Saint-Germain actuellement?
Après, c'est aussi une question de système de Luis Enrique. Donc on voit bien aujourd'hui que Barcola, il peut jouer surtout à gauche, un peu à droite. Donc c'est là où il s'exprime le mieux, mais manifestement à gauche, c'est ce qu'il aime bien. Ouais. Après, bon, il a un pied gauche, c'est pour descendre du bus. Donc, et si c'était un grand joueur, il aurait fait gagner le PSG samedi. Parce que bon, il est quand même en position deux fois. Il doit, au moins des deux, il doit faire but. Donc ça n'aurait pas été jusqu'au péno, quoi. Donc non, je pense que c'est un joueur pour le top niveau. Il manque beaucoup. Par contre, il a effectivement cette grande qualité, quand il prend la profondeur, de faire des différences énormes. Mais malheureusement, il n'en fait pas grand-chose de ces différences. Donc, moi, je suis peut-être sévère, mais je vois un peu de foot. Donc, je vais souvent au stade et je vois des grands joueurs. Et je pense que si, effectivement, le PSG recrute Yann Diomandé, il ne jouera pas beaucoup.
Ah oui, parce qu'effectivement, c'est un des noms qui revient. Diomandé, l'Ivoirien, qui a un peu les mêmes qualités que Barcola.
Mais en mieux, quoi.
Et tu le trouves en mieux, voilà.
Donc, perso, ouais.
Pour toi, ouais. Non, mais voilà. Bon, ça, c'est l'avis de Bruno Satin sur Bradley Barcola. Concernant Gonçalo Ramos, alors c'est un petit peu différent, c'est ce que je te disais, Jimmy. Ça aussi, ça va être un des cas à suivre cet été, parce que c'est pareil, c'est le joueur parfait hein, pour un entraîneur. Il dit jamais rien, il marque ses buts quand il rentre, 12 buts marqués en 45 matchs. Il a été seulement 15 fois titulaire, aucune titularisation en Ligue des Champions. Voilà, mais il rentre, il marque son pénalty contre Arsenal. Acheté 65 millions d'euros quand même, Gonçalo Ramos. Je pense qu'on
c'est
est...
C'est bon, t'as renta, rien que son tir au but, t'as renta le but tout, à Marseille. Nous,
on avait fait une émission sur lui, et c'était avant cet hiver, et on se disait, bon, pour Ramos, même pour lui, on serait content qu'il trouve un club où il pourrait jouer un peu plus. Est-ce que tu restes sur cette logique-là, Jimmy?
Oui.
Est-ce que toi, tu penses que, bon, voilà, il est temps pour lui d'être titulaire ailleurs?
Mais il y a un instant, Bruno parlait du système de Luis Enrique. Je pense que moi, ce système-là, il le condamne un peu, en fait. T'as pas ce profil de numéro 9 dans le jeu de Luis Enrique. Je l'imagine pas gratter plus de temps de jeu qu'il n'en a eu cette saison. Donc si tu veux, pour ça. Après, la soupe est bonne à Paris, hein, tout va bien. Hein, t'es sur le banc, tu gagnes très bien ta vie, tu vis à Paris. Ça fait deux Ligues des Champions dans le
bonus,
à trophée. Tu prends les, tout va bien. Mais ça dépend après ce à quoi t'aspires. Moi, il y a le nom d'Eli Kroupi qui revient de temps en temps. Si tu me dis demain, Eli Kroupi va remplacer Gonçalo Ramos, je suis pas loin de signer quand même.
Ouais, merci pour tout ce que tu as fait pour le PSG. Si tu veux partir, bon courage. Après, si tu veux rester. Non, mais vraiment, sincèrement, moi, c'est pas un mec que je dis, dont je dis bah, il n'a plus aucune utilité. Non, si lui veut rester, je n'y crois pas. Je pense qu'il va partir. S'il veut rester, moi, je suis le PSG.
Parce que là, tu es un club, Bruno, qui a besoin d'un attaquant. Il est parfait, celui-là, Gonçalo Ramos, honnêtement. Dans n'importe quel club européen,
il y a 24 ans.
Peut-être pas les plus grands clubs, évidemment,
top 8,
il va pas être titulaire.
Il fait pas forcément titu, quoi. Donc,
dans le top 8, il est pas titu, ouais.
Enfin, je veux dire.
Atletico, il est titulaire. Hein.
Après, il est souvent rentré quand même dans les situations où il fallait un peu de densité, un peu de jeu de tête en fin de match. Tu vois, quand le PSG en championnat peinait un peu. Et donc, c'est vrai qu'il a des petites stats correctes, j'ai envie de dire. Bon, au regard du prix qui a été payé par le club. C'est un rendement moyen, on va pas se mentir non plus, quoi. Donc, ouais. Mais c'est un bon soldat, bon état d'esprit, donc bon, bah ça va bien. Mais je veux dire, c'est un peu mieux que Choupo-Moting à l'époque, quoi. Si je suis,
bon, mais oui, quand même, c'était le même prix. Heureusement, ouais. C'est un peu mieux que Choupo-Moting.
Jamais une polémique. Hein. En 3 ans au PSG, il a jamais titulaire ou très peu, et jamais une polémique, jamais un mot plus haut que l'autre. Quand on sait ce qui s'est passé au PSG ces dernières années, c'est quand même dingue.
Parce que si ça marche aussi, c'est parce qu'il y a des joueurs comme ça au Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
C'est ça aussi qui fonctionne.
Oui, mais comme on disait, s'il part, il va être amené à être remplacé, Gonçalo Ramos. Oui. Il y aura un joueur qui viendra prendre sa place et qui
fera
trouver
quelqu'un qui accepte aussi de ne pas être titulaire en Ligue des Champions, par exemple, jamais, comme ça a été le cas pour Ramos.
Pour moi, je pense que le PSG ne mettra personne dehors, en fait. Quand tu as fait les deux saisons que tu viens de faire là, je ne pense pas que Gonçalo Ramos, on va lui dire voilà, Luis Enrique, il est suffisamment transparent avec ses joueurs. Après, c'est ce à quoi tu aspires. Est-ce que dans ta carrière, à un moment donné, tu aspires à plus, tu aspires à être titulaire, à enchaîner les matchs Voilà, la question elle est là. Faudra voir ce qu'il a vraiment envie de faire, Gonçalo Ramos.
Ouais. Autre cas, bon, ça, est-ce que c'est un cas, on l'a moins vu aussi en fin de saison, mais Kangin Lee, qui a joué quand même des matchs beaucoup en début de saison, qui forcément a beaucoup moins joué en fin de saison, 39 matchs pour lui, 19 titularisations, aucune en Ligue des Champions. Hein, comme Ramos, il n'a jamais été titulaire en Ligue des Champions. Donc lui aussi, il a été amené les matchs, on va dire, pas ceux qui comptent pas, hein, puisqu'il fallait les gagner pour être champion de France. C'est un joueur typiquement Luis Enrique, lui. Alors, parce qu'il peut le mettre partout, Kangin Lee. Donc c'est pareil, c'est un joueur qui peut-être peut aspirer à plus, Clément, mais qui aussi peut faire partie des joueurs partants cet été.
Moi, pour le coup, je m'en sépare de Kangin Lee. Je trouve que là, il y a un vrai plafond de verre au PSG. Il a un seul fait d'arme cette saison, c'est son but contre Tottenham en Supercoupe d'Europe. Pour le reste, ça a été décrescendo au fur et à mesure de la saison. Il a de moins en moins joué. Il a de moins en moins apporté sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Alors oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, pas beaucoup de polémiques. Plutôt un bon soldat, mais là, je trouve qu'il n'y a vraiment plus aucune plus-value. Il a 25 ans, il a encore une valeur marchande. T'as recruté Drô Fernandez, qui fait très, très bien le taf en milieu de terrain. Enfin,
ouais, il doit se renforcer,
oui,
quand même.
Il doit se renforcer, mais je trouve que c'est de mieux en mieux, en tout cas, quand on l'a vu en fin de saison. Pour moi, Kangin Lee, si tu as une bonne offre, il faut s'en séparer. Je ne pense pas qu'il y ait une plus-value à l'avoir dans l'effectif.
Un avis sur Kangin Lee, non,
pas mieux que Clément, je suis plutôt aligné.
Bon, j'aime bien le joueur parce que techniquement, oui, ça reste vraiment propre. Il n'y a pas un ballon qui dégueule. Bon, après, on connaît un peu toujours sa fixation. On sait qu'il va re-rentrer puisqu'il ne va pas déborder sur son pied droit. Mais c'est quand même un joueur...
C'est un très bon joueur.
C'est un très bon joueur. Et dans la rotation, comme il y a au PSG, avec les matchs de championnat... C'est un joueur de un squad player, comme on dit en Angleterre. Ouais.
Et encore une fois, il en faut. Bon, voilà, ça, c'est pour ceux qui peuvent partir. Si vous avez un vœu, je vous offre un vœu. Voilà, un souhait. Vous pouvez y aller, puisqu'on est dans un After Paris spécial Mercato pour cet été. Je vais laisser réfléchir Jimmy, parce qu'il a besoin de plus de temps que les autres.
Non, je l'ai, moi.
Tu l'as déjà ?
Je l'ai déjà donné. C'est moi, si il y en a un à prendre, je prends Elie Kroupi.
Elie Kroupi.
Ouais.
OK, de Bournemouth actuellement.
Qui peut couvrir les trois postes devant, qui m'épate à chaque fois que je le vois jouer avec.
Joueur technique, donc
j'avais déjà vu,
va pas déplaire à Luis Enrique évidemment.
J'avais déjà vu à Lorient avant qu'il parte en Ligue 2 l'année dernière, enfin il est impressionnant, il a tout en plus
il va être cher.
Il a le même conseiller que pas mal de joueurs du PSG déjà, donc
Bournemouth n'a pas prévu de s'en séparer.
Non, ça c'est clair. Ils ont déjà annoncé.
Ça risque de cogner.
Pour aller le chercher, ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu as un vœu, Clément ?
J'ai pas beaucoup d'inspiration, mais j'ai le même globalement depuis 2 ans. C'est
Alvarez,
que je suis depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Seul bémol, et un vrai bémol qui me déchauffe beaucoup, c'est qu'il n'a pas l'air très motivé pour venir, lui. Et je trouve que
c'est ce que j'ai pu lire, c'est qu'apparemment, Luciano Riquet et Luis Campos se sont dit, bon, bah, s'il n'est pas chaud, on va passer à
autre chose. Dans ce PSG-là, autant je l'adore, autant je ne veux pas qu'il vienne s'il n'a pas envie de venir.
Mais il ne viendra pas s'il n'a pas envie de venir, je pense. Mais c'est la nouvelle politique du Paris Saint-Germain.
Dans le profil de joueur, il correspond parfaitement aussi à Luciano Riquet.
Ouais. Et puis peut-être que Bruno est un joueur à placer, là. C'est le moment.
Pour lui, écoute, on connaît un peu l'entourage du joueur. Et bon, Julian Alvarez, c'est vraiment du top. Par rapport au système, il est Luis Enrique est compatible.
Tu veux pas lui parler, il vient d'arrêter de tergiverser là. Qu'est-ce qu'il a, je comprends pas.
C'est le taf.
Il veut pas venir la pub.
Messi lui a dit de revenir.
Non, si les Argentins, s'ils envoient la maille, il sera là. Hein. Les Argentins, il y a 1 euro par terre, il gratte.
N'importe quoi. Non, en tout cas, Bruno, n'hésite pas si tu as des infos. Hein.
C'est Diomandé, lui. Bruno, il veut Diomandé, il nous a dit.
Non, bon, Diomandé, je pense que bon, manifestement, Diomandé.
Il intéresse beaucoup de clubs.
Il est. Il y a Liverpool aussi.
Declan Rice.
Dessus.
Belle recrue, ça, Declan Rice.
Oui.
Bah, t'as dit un vœu.
Ah oui, bien sûr. Un vœu
et apparemment, le club suit quand même assez attentivement la situation de Magnès Akliouch aussi. Hein.
Exactement, Akliouch, enfin, le joueur de Monaco. Voilà, bah, n'hésitez pas, laissez vos vœux, tiens, sur YouTube, voilà, en commentaire. Faites comme Jimmy, comme Clément, vous laissez vos vœux de supporters parisiens pour l'année prochaine. Je voulais remercier Bruno Satin, merci beaucoup d'être venu dans cet After Paris spécial Mercato. Tu reviendras, j'espère, et on t'écoutera dans l'After régulièrement. Merci Clément.
Merci à toi.
Je rappelle, back to back pour offrir, hein, c'est un beau cadeau.
Voilà. Objet bibliothèque.
J'allais dire à mettre sous le sapin. Mais
photo exclusive de la finale, des célébrations, il y a plein de choses très sympas dedans.
Voilà, les éditions Amphora pour ce back-to-back pour ce livre. Merci beaucoup Jimmy de m'avoir accompagné toute la saison.
Merci à toi pour cette saison.
On se retrouve la saison prochaine.
T'as supporté chance. Bravo.
Et surtout, voilà,
bah, pour un Messin, ouais, c'était pas facile.
Voilà. Mais c'était pas gagné, mais il a su.
C'est le grand écart.
Il a commencé Messin, il a fini Parisien la saison, voilà. François.
Bah, on a l'armoire à trophées moins remplie. Voilà. On n'a pas de, encore la.
Mais ça viendra peut-être.
La Ligue des Champions, on l'écoute derrière.
C'est ce qui vous rapproche un peu.
J'en profite pour remercier Fabrice Hawkins, Arthur Ferraud, Julien Taxi, Jean-Louis Tour, tous nos reporters, tous les membres de l'After qu'on retrouvera la saison prochaine dans After Paris. Merci beaucoup aussi à Samantha, Eliane et toute la production pour After Paris toute l'année. Merci aux invités, les anciens joueurs du PSG qu'on retrouvera la saison prochaine aussi, qui sont succédés cette saison dans After Paris. Moi j'ai un petit vœu, tiens, je le dis. Ravière, ah. Ravière Pastore, on t'attend.
On l'a vu à la fanzone.
Ah oui, mais on t'attend ici.
Enfin,
un spécial hommage à Ravière Pastore, parce que grand fan de Ravière Pastore.
Et spécial Pacho pour demain, la saison prochaine.
Et spécial Pacho aussi.
Si Ravière Pastore, je suis invité pour.
Ah bah, alors pas de problème, on fera ça. Merci aussi aux équipes techniques qui s'occupent de la mise en image sur YouTube, de la mise en audio sur l'appli RMC. Merci à Toto, qui malgré son amour pour l'OM.
Réalise
ça quand même de main de maître, donc on remercie Toto qui est en régie, et puis à la saison prochaine pour évidemment de nouveaux épisodes d'After Paris. Bel été à tous, à bientôt.
RMC After Paris.